Vous écoutez RTL. On n'est pas forcément d'accord.
8h20, bonjour François Langlais,
rebonjour.
Et bonjour Thomas Porcher, merci de nous avoir rejoint. Le nombre de chômeurs, je le rappelle, a donc connu en septembre sa plus forte baisse depuis 2001, moins 1,8%, soit 64 800 demandeurs d'emploi de moins. On sort le champagne et le lendemain, l'Unédic, le gestionnaire de l'assurance chômage, nous annonce que le nombre des chômeurs inscrits à Pôle emploi a augmenté en 2017 avant de se stabiliser en 2018. On doit croire CRI. Qui doit-on croire? Ce sera plus facile comme liaison, François Langlais.
À mon sens, une amélioration modeste, mais visible et progressive, qu'on observe dans toute l'Europe, qui est plutôt plus tardive en France qu'ailleurs, et plus modeste en France qu'ailleurs. Mais elle est bien là, elle s'est corroborée par d'autres indicateurs. Si vous voulez, vous avez les déclarations d'embauche, qui sont quand même assez favorables. Le nombre d'emplois créés, on est à 300 000. Alors, à côté de ça, c'est vrai que cet indicateur du nombre de chômeurs en fin de mois ne répercute pas autant qu'on pourrait le penser la baisse. Pour autant, on peut penser que dans les mois qui viennent, il y aura quand même une baisse modeste, c'est mon sentiment.
Thomas Porcher, est-ce qu'on a des raisons d'y croire enfin, si je puis dire ?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a des créations d'emplois, là-dessus je vous rejoins complètement. Maintenant, il faut voir de quelle situation on part, et on part d'une situation extrêmement dégradée. C'est-à-dire que depuis 2008, on a 1,5 million de chômeurs en plus en France. Donc là, certes, on a 300 000 créations d'emplois, mais pour moi, on ne peut pas parler de succès. C'est plus un effet de rattrapage qu'un succès. Vous avez encore des régions en France, les Hauts-de-France, le Grand Est, où vous n'avez pas réatteint le niveau de richesse d'avant-crise. C'est-à-dire que les Français vivant dans ces régions-là sont aujourd'hui plus pauvres qu'en 2007. Donc les créations d'emplois que l'on connaît aujourd'hui, c'est très bien, mais on est loin d'avoir rattrapé notre niveau, pour moi, d'avant-crise.
Alors, ce qui me frappe, c'est que là, vous nous décrivez surtout une France fondamentalement inégale en matière d'emploi.
Complètement, mais c'est le cas aussi même de l'Europe. L'Europe est complètement inégale. Vous avez des pays qui ont des taux de chômage très faibles et d'autres, comme les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie et la Grèce, qui ont des taux de chômage très élevés. Donc, même s'il y a de la croissance, cette croissance va profiter de façon inégalitaire à la France.
François Langlais ?
C'est tout à fait vrai. C'est spectaculaire. Et je dirais, non seulement c'est vrai, mais c'est beaucoup plus vrai qu'avant. C'est-à-dire, il y a 10 ans, on était sur des trajectoires qui étaient différentes d'une région à l'autre ou d'un pays à l'autre, mais qui étaient quand même toutes dans le même sens. Aujourd'hui, on a une vraie divergence. Vous avez tout le quart nord-est de la France qui est en train de s'enfoncer. C'est-à-dire, on est à moins 7 ou moins 8% en PIB par rapport à l'avant-crise, alors que la région parisienne, elle cartonne. Aujourd'hui, l'essentiel de la croissance française est faite par la région parisienne. Et alors, au plan de l'emploi, on retrouve ces disparités. Vous avez aujourd'hui un diplôme, il n'y a plus de chômage. Il n'y a plus de chômage pour les jeunes diplômés ou les moins jeunes diplômés. On est à 5%, c'est-à-dire l'équivalent du taux de chômage de la Bavière. Alors que si vous êtes non qualifié ou faiblement qualifié, vous avez là des chances de perdre votre boulot beaucoup plus importantes.
Je m'arrête un instant là-dessus pour vous faire reparler de politique, parce que c'est important aussi, et après on retournera aux questions structurelles sur le marché de l'emploi et sur le chômage. Est-ce que ces bons résultats sont, oui ou non, dus à Emmanuel Macron et au début de sa politique? Est-ce qu'on peut aussi inclure François Hollande et la fin de son quinquennat? Il y a une bataille politique autour de ça, il y a une bataille humaine, psychologique et même on pourrait dire affective d'une certaine façon. Quel est votre jugement, Thomas Porcher?
Alors Emmanuel Macron, il aime bien s'approprier les bons points de l'ancien quinquennat et puis se désolidariser de ce qui lui convient pas, notamment les 4 milliards de trous qu'il y avait dans le budget. Là, il n'était pas au courant et puis là, il va dire que les emplois c'est grâce à la loi Macron et la loi El Khomri qu'il avait soutenu.
Je rappelle qu'entre les 4 milliards qu'on dit parfois être 5, il était secrétaire général de l'Élysée et que voilà, une bonne partie de son équipe était à Bercy et dans tous les ministères.
Oui,
et
puis il y avait eu quand même des gens qui avaient déjà alerté d'un possible trou sur le budget. Mais bon, quand on regarde l'ensemble du quinquennat, puisque Emmanuel Macron était, vous l'avez rappelé, conseiller de François Hollande, puis ensuite ministre de l'économie, on est parti en 2012 avec un taux de chômage, le chômage a augmenté pendant tout le quinquennat, et puis en 2017 on arrive au même taux de chômage qu'en 2012. Donc c'est un quinquennat en termes de lutte contre le chômage finalement nul, zéro. On est resté au même point qu'en 2012. La courbe a augmenté puis elle est redescendue jusqu'au même point. Donc le bilan est là. Donc le bilan n'est pas très fameux. Et pourquoi il n'est pas fameux? Parce qu'il y a eu une politique qui avait été lancée sous Nicolas Sarkozy à partir de 2011 qui visait à imposer de l'austérité dans la zone euro et qui a été poursuivie sous François Hollande.
Donc on ne peut pas imputer, en tout cas dans les 6 mois qui suivent, une partie des bons résultats actuels aux équipes de François Hollande? C'est ma question.
Probablement que, avec le CICE, vous avez eu 40 milliards de baisses, il y a eu quelques dizaines de milliers de créations d'emplois. Mais encore une fois, il faut vraiment partir de la base dégradée. Et je rappelle par exemple que les États-Unis, qui ont fait l'inverse de nous en termes de politique économique à partir de 2011, ont retrouvé leur niveau de richesse de 2007 en 2011, alors que la zone euro ne l'a retrouvée qu'en 2015 et la France en 2014. Donc il y a eu vraiment des problèmes de politique économique qui ont pesé sur l'emploi.
Sur le bisbis économique de l'un et de l'autre.
Écoutez, vous savez,
sachant que le second a été quand même le ministre de l'économie du premier. Hein.
Oui, non, je pense que c'est le problème classique en économie. Hein, c'est est-ce que les phénomènes sont concomitants ou est-ce qu'ils sont conséquents ? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce qu'ils sont liés par une relation de causalité ? Sur l'économie, il me semble que le déterminant principal de l'amélioration française, c'est l'évolution du cycle européen dans sa globalité.
Oui. Hein.
C'est-à-dire, ça va mieux un peu partout, donc ça finit par aller mieux en France aussi. Je suis assez d'accord avec Thomas Porcher sur le fait qu'on peut quand même attribuer une partie des créations d'emplois au CICE, à la baisse du coût du travail, c'est un instrument qui marche. Ça, c'est François Hollande. Je le défendrai un petit peu face à vous, je suis dans un rôle un peu paradoxal, là, en l'espèce, mais vous dites, il a retrouvé son niveau de chômage du début du quinquennat. Oui, mais quel quinquennat épouvantable au plan de la conjoncture. Bien évidemment, à cause des erreurs de politique économique que vous dénoncez, je suis assez d'accord avec vous sur la critique de l'austérité. Mais enfin, la France n'était pas la seule responsable. On s'est quand même tapé 3 ans de croissance zéro en 2012, 2013, 2014. Ça coûte cher en emploi, surtout dans un pays où il y a une démographie dynamique. Au total, Macron n'y est pour rien, probablement Hollande un petit peu, mais le déterminant principal, c'est l'amélioration globale, qui est principalement due au fait que ça a été très mal, et que donc ça va mieux maintenant.
Alors je quitte les bisbis politiques, peut-on, messieurs, s'entendre sur le fait qu'il y a en ce moment une véritable embellie dans le domaine de l'emploi, et qu'on peut l'espérer durable ? Thomas Porcher.
Alors, vous regardez sur ce chiffre mensuel, il est très bon, mais vous regardez les deux chiffres des mois précédents, ils étaient moins bons. Et quand on fait l'équilibre sur les 3 mois, finalement, on se rend compte que certes, il y a une amélioration,
mais il
y a une faible baisse. Maintenant, dans le programme d'Emmanuel Macron, vous avez une grosse suppression d'emplois publics, d'emplois aidés, qui risque également de peser sur le chômage. Vous avez une politique d'économie, hein, 60 milliards d'économies d'ici à 2022, 4 milliards qui ont été faits directement, qui vont peser également sur la croissance. Les 4 milliards vont coûter 0,4 points de croissance économique au prochain semestre. Et si vous n'avez pas de croissance, si vous n'avez pas le rythme de croissance soutenu, vous n'allez pas avoir de création d'emplois parce que vous n'arrivez pas à absorber ces 800 000 personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année. Donc moi, j'ai bien peur qu'au final, les coupes budgétaires que va faire Emmanuel Macron risquent de peser in fine sur la croissance et donc sur les créations d'emplois.
François Langlais.
Je ne crois pas à une amélioration spectaculaire. Je pense qu'elle va se poursuivre, mais qu'il y a fort à craindre qu'elle soit encore toujours dans les marges qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose de, répétons-le, modeste et progressif. Pourquoi ? Parce que le niveau de croissance, même s'il est meilleur, c'est quand même pas non plus. Il n'y a pas de quoi tirer un feu d'artifice. On n'arrivera pas à 2% cette année. Les années où on a créé beaucoup d'emplois, 450 000 par an, ben on faisait du 4%. C'était deux fois plus. Hein. Et on ne voit pas aujourd'hui la conjoncture suffisante pour augurer d'une telle amélioration du climat économique. L'autre point, alors là, qui est beaucoup plus problématique, bon, on peut espérer que le gouvernement Macron ou la présidence Macron va s'y attaquer, c'est la qualité de la ressource humaine, si vous voulez, c'est-à-dire le déficit de formation, la sous-qualification, le fait qu'on ait d'innombrables décrocheurs, comme on dit, de gens
quoi,
qui...
Des gens qui ne sont pas employables, comme on le dit
exactement,
parfois.
Exactement, avec un niveau de qualification de l'économie qui monte forcément, parce que, justement, la concurrence internationale est forte, que dans un régime de frontières ouvertes, on est très exposé à la concurrence internationale. Eh bien, ces non-qualifiés en France, et malheureusement on en a beaucoup, sont exposés à cette concurrence beaucoup plus que les autres. Il faut les former, c'est une œuvre de longue haleine, c'est l'œuvre d'une génération, Yves.
Thomas Porcher.
Oui, je suis d'accord, la formation est importante, mais elle ne résout pas tous les problèmes. Vous avez des gens aujourd'hui très bien formés en entreprise qui ont plus de 55 ans, mais les entreprises n'en veulent plus parce qu'ils coûtent trop cher. Et puis vous avez des gens qui sont très bien formés, mais les entreprises n'en veulent pas parce qu'ils n'ont pas la bonne adresse ou la bonne couleur de peau. Donc l'information n'expliquera pas tout, même si c'est un facteur extrêmement important. Maintenant, sur l'impact d'Emmanuel Macron ou du gouvernement sur le chômage, ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo, la croissance dépend à 60% de l'économie mondiale. Donc déjà pas de nous, à 20% de la politique monétaire européenne et à 20% ensuite du gouvernement. Donc ce qui se passe aujourd'hui, l'embellie de croissance, c'est, vous l'avez dit hein, très, très bien François Langlais, c'est dû à la croissance mondiale qui porte un petit peu la croissance et donc réduit le chômage en France.
Une dernière question, un taux de chômage à 7% est-il possible à la fin du quinquennat ? Je rappelle que c'est l'engagement du candidat Macron devenu président de la République. Alors c'est très difficile de juger ce chiffre, quand on le cite, on se dit c'est pas énorme, il devrait y arriver, vous voyez ce que, bon, et en même même temps, je sens que, par exemple, Thomas Porcher, pour l'instant, est plutôt dubitatif. Alors vous, François Langlais.
Je le suis aussi. La dernière fois qu'on l'a atteint, c'était justement à la fin des années 90, hein, avec une population active qui était plus modeste qu'aujourd'hui, compte tenu de la démographie, rappelons-le, et puis surtout un taux de croissance très élevé. 7% de taux de chômage, ou alors, ça veut dire qu'on change un petit peu la définition du chômeur, ce qui est possible aussi. Vous savez que, justement, il va y avoir une réforme de l'assurance chômage, qu'est-ce qu'on va retenir comme critère justement pour l'indemnisation? Oui. Ça ne touchera pas la définition fondamentale du chômage qui est celle du BIT et qui, elle, ne varie pas. Mais sur la définition française, il est possible que tout ça change un petit peu. Je ne vois pas comment on peut arriver à 7% avec le rythme d'activité actuel. Je comprends bien l'objectif du gouvernement. Je pense que l'outil qu'il veut utiliser, la formation, est le bon. Mais pour autant, ça ne me semble pas être le bon horizon temporel pour avoir des résultats aussi spectaculaires.
Vous n'êtes pas optimiste. Le BIT que vous avez cité, le Bureau international du travail, et c'est Thomas Porcher qui va conclure.
Oui, alors c'est vrai qu'au rythme actuel, on perd 0,5% par an. Donc peut-être que si la croissance continue, on pourrait atteindre les 7%. Mais encore une fois, avec la politique de coupe, je pense que ça va freiner une partie de la croissance. Et puis après, il faut quand même toujours se poser la question de quel emploi on crée. Parce qu'aujourd'hui, les emplois créés à 12%, c'est de l'intérim. Donc, c'est des emplois de très court terme.
C'est mieux que rien quand même.
Oui, c'est mieux, mais bon, il faut le dire quand même. Et 20% aujourd'hui de la population active est en sous-emploi. C'est-à-dire qu'un emploi qui ne répond pas à ses qualifications. Donc là, on peut parler de formation, mais là, on a un vrai problème. Donc voilà, il faut peut-être le chômage peut baisser, mais après, il faut voir quel type d'emploi ça crée. C'est aussi important, parce que parfois, on a des taux de chômage faibles, mais on a une partie de la population qui n'est pas contente et qui va voter, par exemple, pour des gens comme Trump ou pour le Brexit.
Thomas Porcher, François Langlais, merci beaucoup d'être venu débattre ce matin sur l'antenne d'RTL.